There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit. Ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle émission géopolitique. Vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque avec notre dossier de ce mois-ci qui est consacré au cyber. Et puis, nous publions également un numéro spécial dont l'intitulé est « Regard sur la guerre », numéro spécial où vous retrouverez de nombreux intervenants, des officiers français et étrangers, des stratégistes, des analystes, pour étudier la guerre telle qu'elle se pratique aujourd'hui et pour dessiner les pistes de la guerre de demain. L'ensemble de nos numéros peuvent être retrouvés sur notre site internet revueconflit.com dans notre boutique en ligne où vous pouvez acheter les numéros en format papier et en format numérique. En format papier, ils vous seront livrés quelques jours après votre achat. Et puis en vous abonnant également à notre kiosque numérique, c'est la meilleure manière de soutenir Conflit et de nous permettre de vous proposer l'ensemble de ces contenus en accès libre, comme ces émissions que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, et je vous en remercie chaleureusement. Alors cette semaine, nous partons en Afrique pour évoquer la question de l'islam africain. Lorsqu'on parle de l'islam, trop souvent, on le réduit au monde arabe, et puis évidemment, la question de l'islamisme fait que c'est souvent le prisme aussi sous lequel l'islam est regardé. Et nous allons essayer au cours de cette émission de voir que l'islam est extrêmement varié, qu'il n'y a pas le monde arabe uniquement, mais qu'il y a aussi l'ensemble de l'Afrique noire où il y a une présence musulmane extrêmement vive et intéressante à étudier. Et puis des courants multiples de soufis, de mouvements plus radicaux, dont on va aussi essayer de comprendre comment ils fonctionnent et comment ils se développent. Pour parler de ce sujet, je reçois cette semaine Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages et dont consacrés notamment à l'Afrique. Et récemment, chez Vendémiaire, vous publiez l'islam d'Afrique au-delà du djihad. Comme chaque semaine, toutes les références des ouvrages des auteurs que nous invitons sont à retrouver sur le site internet de Conflit. Alors, vous travaillez sur la zone africaine, vous êtes notamment directeur de recherche à l'Institut du développement. Vous avez étudié la question malienne, c'est notamment un de vos ouvrages en 2013, la tragédie malienne, et puis aussi en 2020, une guerre perdue, la France au Sahel, où vous étudiez dans cet ouvrage la question de la présence française dans cette vaste zone sahélienne. Mais nous allons cette semaine évoquer cet islam d'Afrique. Vous dites au-delà du djihad, et effectivement, il n'y a pas que le djihad en Afrique. Et peut-être commençons par le moment où l'islam est arrivé en Afrique. Alors, l'Afrique noire, l'Afrique maghrébine, c'est un peu différent, mais en Afrique noire, à partir de quand on a la pénétration de l'islam et le développement des courants musulmans?
Bon, l'islam est arrivé en Afrique, en fait, avant l'islam. Il faut se rappeler que le prophète avait envoyé ses premiers fidèles trouver refuge dans l'Abyssinie chrétienne, avant même l'Égir, c'est-à-dire la fuite du prophète qui quitte la Mecque, qui est chassé de la Mecque, qui va se réfugier à Médine avant de revenir reprendre la Mecque. Avant même cet Égir qui est le temps officiel des débuts de l'islam, en fait, vous aviez déjà des premiers fidèles dans l'Abyssinie chrétienne, hein, ce qui est tout à fait intéressant. Bon, sinon, écoutez, on peut dater ça dès le 8e siècle, hein, quand effectivement, à travers des boutres, l'islam commence à se répandre un peu sur les côtes est-africaines. Ensuite, effectivement, de manière plus massive, à travers l'Égypte, sur l'Afrique du Nord. Et puis, ça descend soit par les routes caravanières, soit aussi le long du Sahel, sur un axe est-ouest, effectivement, ça atteint, par exemple, le Borno, autour de l'empire du Kanem Borno, autour de la région du lac Tchad, commence à s'islamiser au XIe siècle. Hein. Ensuite, le pays Haoussa, de ce qui deviendra ensuite le califat de Sokoto, lui commence à s'islamiser un peu plus tardivement, 14e siècle. Hein. Après, vous avez des présences islamiques très anciennes, hein, en Afrique subsaharienne, à Tombouctou, par exemple. Ensuite, vous avez une diffusion également, plus vers le sud. Et puis, il y a des phénomènes un peu, dont on parle très peu d'ailleurs, de présence musulmane, par exemple, sur les côtes sud-africaines, puisqu'en fait, le colonisateur britannique va importer notamment des Malais musulmans. Donc, il y aura déjà aussi une présence musulmane aussi assez ancienne en Afrique du Sud, hein, minoritaire, certes, mais toujours active aujourd'hui.
Donc, il y a une sorte de tenaille, si je puis dire, enfin, de tenaille dans l'image de l'objet, entre... D'un côté, un islam qui se développe le long de la côte des Somaliens, donc plutôt la partie est, et puis, simultanément ou en parallèle, la partie ouest. Donc, l'Afrique est islamisée par les deux bords. Il y a une descente comme ça régulière de l'islamisation.
Non, ce n'est pas une descente régulière, ce n'est pas une invasion non plus, ça se joue surtout le long des lignes de commerce. Et c'est un islam multipolaire. Hein. Il y en a un qui est d'importation, bon, qui est très mineur, certes, hein, mais d'importation, finalement, c'est importation de main-d'œuvre hein, par les Britanniques en Afrique du Sud. Mais ce n'est pas effectivement là que va se jouer la présence de l'islam en Afrique subsaharienne. Sinon, c'est surtout à travers les voies commerciales, alors à travers la mer Rouge, à travers les flux transsahariens. Et tout ça se fait de manière très progressive. Il n'y a pas de régularité, si vous voulez. Hein. Et pendant longtemps, en fait, l'islam en Afrique subsaharienne, c'est plutôt l'islam de l'élite, des lettrés, de ceux qui savent écrire et parler arabe, ou bien ajami, qui sont les transcriptions en arabe des langues vernaculaires de la région. C'est seulement à partir, paradoxalement, pendant la colonisation, qui va un peu pacifier hein, certaines zones d'Afrique, donc faciliter les flux commerciaux, que l'islam va connaître aussi des progrès très rapides. Hein. C'est un peu paradoxal, puisque la colonisation a aussi accompagné l'évangélisation du continent, mais en même temps, en rétablissant les flux commerciaux, en pacifiant des zones qui étaient autrefois très difficiles d'accès, ça a aussi facilité la progression de l'islam. Et puis, ne l'oublions pas, hein, les empires coloniaux français et britanniques se présentaient aussi comme de grands empires musulmans. Hein. Ils rassemblaient, bah, notamment les Britanniques avec l'Inde, évidemment, et pas seulement l'Afrique, mais ils rassemblaient le plus grand nombre de musulmans au monde. Hein. Alors ça, il faut bien prendre aussi en compte les changements démographiques qui sont extrêmement importants. Vous avez à peu près un quart des musulmans qui sont arabes aujourd'hui. La plupart, beaucoup de musulmans sont asiatiques, effectivement, mais la part de l'Afrique subsaharienne dans le monde musulman ne cesse d'augmenter parce que c'est le dernier grand continent où finalement on a une poussée démographique qui reste très forte parce que les populations de la zone n'ont pas entamé encore la transition démographique. La mortalité infantile a diminué. En revanche, le taux de fécondité des femmes reste très important. Et c'est plutôt là que ça se joue aujourd'hui. Pas du tout à travers les phénomènes de conversion interreligieuse ou de conversion forcée dont on fait grand cas. Ça, c'est vraiment rarissime. Mais c'est au niveau de la démographie, des changements démographiques, que de toute façon, dans notre monde au XXIe siècle, la part de l'Afrique subsaharienne dans le monde musulman est appelée de toute façon à croître. Ça, c'est absolument inéluctable. Hein.
Il y a une très belle carte dans votre ouvrage qui s'intitule « Les hauts lieux de l'islam en Afrique subsaharienne » où vous montrez très bien cette multipolarité donc entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, un islam qui est surtout centré autour de villes, comme Khartoum par exemple, de villes et donc de sorte de regroupement ou de petits califats peut-être. Comment se structure l'islam en Afrique? Est-ce qu'il y a des liens entre les différents pays? Est-ce que c'est la notion de communauté des croyants a un sens? Ou est-ce qu'on a un islam plutôt national ou bien de peuple en fonction des différents peuples qui sont musulmans?
Je serais bien en peine de répondre à votre question d'une manière globale sur l'ensemble du continent africain. Hein. C'est un peu comme si on demandait qu'est-ce qu'un chrétien en Europe entre, je sais pas, l'Albanie, l'Allemagne ou la France. Les situations sont tellement diverses que c'est vraiment compliqué de résumer les choses. Ce qu'on sait, c'est qu'il existe des cultures islamiques fort variées entre le musulman citadin au Caire ou bien le paysan peul dans le centre du Mali. Il y a effectivement des années-lumière, hein. Pas seulement d'ailleurs dans les pratiques, mais aussi dans la culture islamique d'une manière générale. Alors, il y a toujours ce débat, effectivement, entre c'est une religion qui a des aspirations universalistes, hein, avec une Oumma, une communauté de croyants qui a une ambition planétaire, et en même temps des pratiques qui, elles, sont quand même imbibées, imprégnées de traditions locales. C'est d'ailleurs un des grands débats aujourd'hui qui agite les musulmans africains, hein, au sud du Sahara, dans quelle mesure faut-il rejeter ces traditions africaines qui ont produit des formes d'islam parfois très, très syncrétiques.
Qui est cette question du syncrétisme et des mélanges qu'il peut y avoir entre les cultures locales et le monde musulman. Sur la couverture de votre ouvrage, on voit ce tombeau à Tombouctou. Quel est aujourd'hui le rôle de Tombouctou en Afrique de l'Ouest? Est-ce que c'est un rôle local uniquement ou est-ce que ça a aussi une dimension régionale comme référence spirituelle ou comme référence culturelle?
Ça reste une référence symbolique, je crois, pour le monde musulman. En revanche, ce n'est plus le haut lieu de la pensée islamique, je dirais. D'abord, il faut voir que le nord du Mali est extrêmement peu peuplé. Il y a peut-être 1 million d'habitants les bonjours, si vous voulez. Donc, ça n'a rien à voir avec les masses musulmanes, rien que dans une ville comme Lagos, qui est la deuxième plus grosse ville du continent après le Caire. Le Nigeria, on estime qu'il compte à peu près la moitié de sa population est musulmane, et il est appelé à devenir le troisième pays le plus peuplé du monde d'ici 2050. En 2050, au premier rang, on aura l'Inde, suivi de la Chine, et au troisième rang, on aura le Nigeria. Et là-dessus, il n'y a pas de dispute sur les projections démographiques, c'est vraiment un fait avéré. Le Nigeria, en 2050, sera plus peuplé que les États-Unis. Aujourd'hui, le pays compte quelque 200 millions d'habitants, donc vous avez déjà une bonne centaine de millions de musulmans au Nigeria, et donc c'est appelé à progresser. Donc je dirais que voilà, il y a cet effet démographique qui joue. Quand vous comparez avec Tombouctou, c'est un lieu prestigieux, c'est un lieu historique, un lieu symbolique, mais je ne pense pas que ça soit aujourd'hui le haut lieu de la pensée islamique. C'est ailleurs que ça se joue. C'est d'ailleurs un peu ce que j'essaye de dire dans le livre, la grande thèse que je défends finalement. C'est que d'abord, c'est un islam multipolaire, donc ça se joue pas uniquement dans le sens d'une importation d'idées en provenance du monde arabe. Les Africains se saisissent des idées qui circulent, ils se les réapproprient, et ils ont même pu influencer eux-mêmes les pratiques religieuses dans le monde arabe, ne l'oublions pas. Donc il y a vraiment une circulation des idées, des normes islamiques. Il y a beaucoup de débats qui rarement, en fait, débouchent sur des violences entre musulmans. Ça arrive, et on en fait grand cas, il y a des foyers djihadistes qui marque beaucoup les esprits et les médias à travers le Sahel. Mais pour le reste, il y a beaucoup de débats, effectivement, sur la façon dont les musulmans se confrontent aux politiques dans les temps modernes, en sachant que, effectivement, la plupart des musulmans d'Afrique vivent dans des États qui sont très autoritaires et corrompus. Donc c'est un vrai défi par rapport à leurs normes religieuses. Et les changements, pour moi, parce que dès qu'on parle d'islam en Afrique subsaharienne, on parle de radicalisation de l'islam, on parle de politisation de l'islam. À mon avis, ça n'a pas grand sens sur le plan historique. Surtout quand on prétend que l'islam serait une religion intrinsèquement politique. Et qu'on se rappelle qu'au XIXe siècle, il y a déjà de grands États, des proto-États islamiques, comme le califat de Sokoto, l'Empire tout couleur, la théocratie du Massina dans le centre du Mali, etc., etc. Donc finalement, quelque part, l'islam est au pouvoir au XIXe siècle. Donc, voir qu'il y a encore aujourd'hui des musulmans qui demandent une islamisation du champ politique ne me paraît pas en soi complètement novateur. Il y a des formes évidemment de revendications qui, elles, sont novatrices, qui s'adaptent aux techniques modernes, les réseaux sociaux, les élections, etc., bien sûr. Mais je dirais que l'islam a toujours eu une dimension politique, comme beaucoup de religions d'ailleurs. Donc parler de politisation, dire que l'islam d'aujourd'hui serait plus politique que celui d'hier, ça me paraît étonnant, à moins de considérer que finalement... l'islam serait politique uniquement quand il sert à contester les pouvoirs établis et non pas à faire régner l'ordre, parce qu'autrefois, l'islam, et c'est encore d'une certaine manière le cas aujourd'hui, sert aussi à faire régner l'ordre, à réprimer aussi des contestations et pas seulement à s'insurger au nom du djihad. Donc voilà, le livre revient un peu sur cette question de politisation de l'islam, même si cette politisation prend de nouvelles formes, et puis également sur la notion de radicalisation. Il y a toujours eu des séquences où l'islam sert à justifier des violences, que ce soit des violences de répression de la part des pouvoirs établis ou des violences insurrectionnelles. Ça, il y a vraiment... Alors, il n'y a pas de fréquence, il n'y a pas de régularité. En revanche, il y a une séquence quand même. Il y a une sorte de pattern, un modèle qui voit effectivement des clercs musulmans contester des pouvoirs établis qui sont décriés comme impies, comme des mauvais musulmans, et qui, à ce moment-là, sont chassés de la cité, en quelque sorte bannis, vont se réfugier dans les campagnes où ils montent un... un centre de retraite spirituelle qui parfois tourne vers le camp militaire, et il est arrivé, historiquement, au XIXe siècle, effectivement, que ces camps, que ces centres de retraite spirituelle, devenus des camps militaires, partent à l'assaut des pouvoirs établis et parviennent à marquer la victoire et à les renverser pour établir, par exemple, le califat de Sokoto ou bien l'Empire tout couleur ou encore le Massina au Mali. Ça, ces séquences sont intéressantes parce qu'on les retrouve vraiment d'un siècle à l'autre et d'un pays à l'autre, si vous voulez. Hein. Mais ça montre bien qu'il y a toujours eu un rapport entre l'islam et la violence, comme il y en a dans beaucoup de religions, en fait, hein, où finalement le corpus religieux sert à justifier des insurrections ou au contraire des répressions. Et donc là aussi, si vous voulez, il n'y a rien de très nouveau, si ce n'est évidemment dans les formes que prennent les djihad contemporains.
Dans la question du djihad contemporain, dans votre ouvrage, vous analysez également la question du soufisme et vous montrez les relations ou les oppositions qu'il peut y avoir entre les deux. Alors, le soufisme fait parfois un peu fantasmer parce qu'on a l'impression que c'est l'islam qui va permettre d'empêcher ce qu'on appelle justement la radicalisation. Alors, on a tendance à employer des mots qui sont chargés de sens, mais qui finalement ne veulent plus trop rien dire à force d'être employés un peu à tort et à travers. Le soufisme, qu'est-ce que c'est exactement et comment se manifeste-t-il en Afrique ?
Le soufisme, c'est souvent un rapport mystique, voire extatique à l'islam, à la parole prophétique, mais c'est aussi souvent une organisation confrérique de la communauté des croyants. Hein. Donc c'est des grandes confréries soufis. Aujourd'hui, le discours dominant que l'on voit notamment dans la lutte contre le terrorisme, c'est de faire une opposition entre un soufisme qui serait tolérant, qui serait endogène, face à un salafisme qui serait d'importation arabe et lui serait porteur d'une doctrine permettant de justifier des actes terroristes. Or, en réalité, la situation est beaucoup plus complexe que ça. D'abord, je montre qu'il y a autant de divergences à l'intérieur du monde soufi qu'il y en a entre les salafistes. Il y a des salafistes quiétistes qui souhaitent se retirer du monde, d'autres qui veulent participer aux élections, d'autres encore qui veulent effectivement prendre les armes pour protester contre les injustices sociales. Et vous avez aussi des tendances à l'intérieur du soufisme qui vont de tous les extrêmes, si vous voulez, entre l'ermite pieux jusqu'à des formes violentes d'utilisation de l'islam, comme au XIXe siècle. Il faut rappeler que les djihad du XIXe siècle n'étaient pas portés par des doctrines salafistes, mais par des confréries soufis. Ça, c'est quand même important de le rappeler. Donc on voit qu'il y a des séquences, il y a des moments d'histoire qui diffèrent, et qui nous invite à relativiser l'idée qu'il y aura un bon et un mauvais islam. En fait, c'est plus complexe que ça, et au-delà de l'opposition contemporaine entre soufisme et salafisme, je crois qu'il faut prendre aussi beaucoup en compte les oppositions à l'intérieur des mouvances salafistes et à l'intérieur des mouvances soufis. Elles restent encore aujourd'hui très, très virulentes. Et puis, n'oublions pas une chose, c'est que ce grand débat entre un bon et un mauvais islam, entre le soufisme et le salafisme, en réalité, il concerne une minorité de musulmans. Pour le peu de statistiques qu'on a, les statistiques sont pas bonnes en Afrique en général, mais on a quand même des grandes enquêtes qui montrent que l'essentiel des croyants, ceux qui se disent musulmans, disent qu'ils sont musulmans, point final. Et qu'on leur demande s'ils sont soufis et salafistes, ils disent non, n'essayez pas de me faire rentrer dans des catégories qui sont un peu construites politiquement, y compris par les décideurs occidentaux ou les chercheurs. Hein. On a aussi notre part de responsabilité à vouloir systématiquement comprendre l'islam comme une opposition en Afrique entre soufisme et salafisme. Encore une fois, ça ne concerne en fait d'abord essentiellement que les imams dans les mosquées, qui sont souvent mais pas tous affiliés à des courants de pensée plus ou moins précis, mais aussi assez fluides en réalité, assez plastiques. Et puis voilà, pour le reste, l'immense majorité des croyants musulmans au sud du Sahara ne se reconnaissent pas forcément dans ce vocable de soufi et de salafiste. Donc il faut peut-être un peu désamorcer cette lecture d'un islam extrémiste qui serait d'origine étrangère, arabe, face à un islam endogène qui serait plus tolérant, mais qui néanmoins a été le porteur des grands djihads du XIXe siècle. Et là-dessus, j'ai tout un chapitre sur ce que j'appelle une histoire brève, une histoire longue et même brève du djihad en Afrique, pour rappeler que les djihads d'autrefois qui aujourd'hui sont encensés, hein, qui ont été intégrés dans l'ordre colonial, en fait étaient extrêmement violents, eux aussi, en termes d'atrocités, de décapitations, de viols, de captures, d'esclavage. C'était aussi des djihads qui, de ce point de vue, n'ont rien à envier, évidemment, même si les formes de combat ont beaucoup changé, mais n'ont rien à envier aux atrocités qui sont aujourd'hui commises.
Sur la question du djihad, justement, là aussi, ça fait partie des mots qu'on emploie beaucoup et parfois sans vraiment le définir. Est-ce qu'il y a une différence entre les djihads que vous avez évoqués, notamment au 19e, et les djihads d'aujourd'hui, et quelle est, si on peut le définir, quelle est la part entre l'aspect politique et l'aspect religieux? Est-ce que c'est une religion qui est utilisée au service du politique, ou est-ce que c'est véritablement un mouvement religieux d'expansion de l'islam?
Alors, vous le savez sans doute, le mot djihad est assez polysémique. Hein. Il a un entendement d'abord dans sa racine d'être un effort spirituel intérieur de ceux qui tendent vers Dieu, hein, avant d'avoir un aspect militaire, ce qu'on appelle parfois le djihad mineur finalement, le djihad majeur étant l'effort spirituel d'abord. Alors quand on s'intéresse au djihad mineur, qui est celui de la guerre sainte finalement, il y a souvent un discours qui tend à dire que les djihad d'autrefois, il y a une espèce d'amnésie commémorielle si vous voulez, c'est-à-dire que les djihad d'autrefois, ceux du 19e siècle en Afrique, sont considérés comme des grands moments soit de résistance anticoloniale, soit de création de proto-État islamique, donc ils sont plutôt glorifiés en fait aujourd'hui, hein, à quelques exceptions près. Donc on a intégré ces djihad dans les romans nationaux et on les a vraiment valorisés. Et du coup, par rapport aux groupes qui sont qualifiés de djihadistes aujourd'hui, on a souvent tendance à dire que les leaders des djihad d'autrefois étaient beaucoup plus inspirés effectivement par des motifs religieux que ceux d'aujourd'hui, qui seraient de simples bandits, qui n'y connaisseraient rien au texte sacré, etc., etc. En réalité, quand on regarde un petit peu plus près, on se rend compte d'abord qu'il y a un phénomène, alors là, qui est d'abord de nature militaire, finalement, qui est que les idéologues, que ce soit dans un mouvement d'inspiration marxiste ou djihadiste, ben les idéologues sont assez vite tués, finalement. Et donc, plus le conflit dure, plus les motifs du conflit prennent, relèvent de raisons de cause qui sont beaucoup plus pragmatiques, qui sont liées au pillage, qui sont liées aussi à la vengeance, et qui écartent du projet religieux initial, si vous voulez. Et ça, c'est des choses qu'on voit très bien avec le califat de Sokoto, par exemple, dans l'actuel Nigeria, au 19e siècle, puisque c'est un califat qui rayonnait, en fait, bah, quasiment du Mali. Hein. Le Massina malien était considéré comme un état vassal du califat de Sokoto, qui allait jusqu'au nord du Cameroun. Hein. Donc, c'est vraiment absolument immense, hein, il faut le rappeler. Et ce califat de Sokoto, qui est né en 1804, n'a finalement été défait par les Britanniques qu'en 1903. Donc, il a duré quand même un siècle. Hein. Et au début, bon, son leader, Ousmane Danfodio, a mis en place une théocratie qui reposait effectivement sur une application très puritaine des textes sacrés. Mais très vite, je dirais, le leader de ce djihad, qui est mort lui dès 1817, s'est vu dessaisir de sa pensée par des gens, par des commandants de guerre, on va dire, qui eux avaient d'autres motifs dans leur combat, et pas seulement celui d'appliquer proprement la religion, vous voyez. Et là, on a vu effectivement se mettre en place une économie très prédatrice, qui reposait beaucoup sur l'esclavage, sur la traite des non-musulmans. Le califat de Sokoto était abolitionniste uniquement pour ce qui était de l'esclavage des musulmans, mais pas de l'esclavage des non-musulmans. Et donc très vite, on voit qu'il y a une espèce de dérive matérialiste, finalement, de ce califat. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut voir d'ailleurs encore aujourd'hui. Hein. Il y a certains groupes djihadistes qui ont été effectivement fondés par des imams. Je pense à Boko Haram avec Mohamed Youssouf, ou bien la Katiba Massina avec Koufa. Hein. Et on voit que plus le conflit perdure, plus la référence, plus le projet religieux, je dirais, disparaît dans les sables, vous voyez, et où d'autres logiques qui ont un caractère plus militaire, qui tiennent à la vengeance, qui tiennent à l'appât du gain, prennent le dessus. Ça, c'est des phénomènes qu'on voit finalement dans ces séquences djihadistes, qu'elles soient au 19e siècle ou bien au 21e. Ça reste très fort encore aujourd'hui.
Sur la question également du djihadisme, vous avez étudié notamment le domaine du Sahel. Est-ce que il y a une focalisation sur le djihadisme? Est-ce que c'est uniquement l'élément qui favorise la violence, ou est-ce que on n'a pas aussi un aspect de violence quotidienne qui est couvert d'islam pour donner une dimension un peu meilleure ou un peu plus importante?
Pour préciser les choses, dans les sociétés musulmanes du Sahel, vous avez un millefeuille de conflits. Hein, il y a du banditisme rural, du vol de bétail, des bandits de grand chemin, en veux-tu, en voilà. Le mariage précoce des filles est aussi une violence en tant que telle. L'excision, j'en passe et des meilleurs. Donc, je suis pas sûr. Est-ce que c'est les différentes formes de violence qui affectent les sociétés musulmanes qui vous intéressent, ou vous faisiez référence à autre chose?
Oui, en fait, c'est-à-dire que le fait de ces violences, on va dire quotidiennes ou usuelles, enfin de droit commun, est-ce que elles sont parfois recouvertes d'un vernis de djihad? pour avoir une dimension, on va dire, un peu plus méritante que simplement de faire de la rapine ou de faire des crimes de droit chemin.
Oui, alors ça, bah, c'était aussi le cas au XIXe siècle, c'est-à-dire que vous avez toujours un élément criminel qui vient se glisser dans des insurrections qui se veulent initialement politico-religieuses, hein, donc des gens qui profitent de situations de chaos pour mettre la main sur des terres, des femmes, sur des ressources, voilà. Ça, c'est des choses que l'on voit, et c'est pas spécifiquement contemporain. Il y a toujours du criminel qui est entremêlé. Et c'est souvent difficile de faire la différence. Ce qu'on voit, c'est que vous avez ce qu'on peut voir quelquefois, c'est que vous avez des revendications pour des enlèvements qui sont faites au nom d'un groupe djihadiste, mais qui en réalité, l'enlèvement a été commis par des groupes complètement crapuleux, si vous voulez, qui essayent de faire monter les enchères en se réclamant d'une mouvance djihadiste, qui peut d'ailleurs ensuite régler ses comptes, hein, ou alors accepter du moment qu'on partage le fruit de la rançon. Donc, ça devient très compliqué. Il y a beaucoup, effectivement, d'actes de violence qui sont imputés à des groupes djihadistes, mais qui ne sont pas forcément commis par vraiment des gens qui seraient, comment dirais-je, impliqués, engagés dans un projet politico-religieux. Ça, c'est très courant, puisque ces groupes agissent aussi dans des régions qui, de toute façon, connaissaient déjà de nombreuses formes de violence, hein, y compris des rébellions comme le sécessionnisme touareg ou des diverses bandes armées qui sillonnent le Tchad au cours des années 80, pendant les années de guerre civile. Ça, c'est vraiment des choses qui viennent aussi se greffer sur les logiques djihadistes d'aujourd'hui, y compris pour ce qui est du braconnage du côté de la frontière Cameroun-Nigeria ou bien encore les trafics de drogue au Mali. Tout ça, effectivement, reste très, très prégnant.
Je voudrais aborder la question des villes et de l'urbanisation, mais juste avant, peut-être poser une question sur les imams. Vous l'avez évoqué un peu plus tôt dans l'émission. Mais comment sont-ils formés de manière générale? Évidemment, il y a toujours probablement une multitude de cas, mais de manière générale, comment sont-ils formés? Est-ce que c'est une formation locale ou est-ce qu'on en a également qui vont au Caire, peut-être en Arabie Saoudite, pour se former et ensuite donc revenir dans leur pays pour délivrer leur enseignement ou diriger la communauté dont ils ont la charge?
Alors, c'est une grosse différence entre l'Afrique subsaharienne et le monde arabe, c'est que dans le monde arabe, la formation des imams est beaucoup plus contrôlée par les États, en Algérie ou ailleurs. Dans le cas des mondes subsahariens, les États sont plus faibles et ils parviennent moins à monter des filières de formation. Il y a eu des tentatives, y compris du temps de la colonisation, hein, où les Britanniques et les Français ont tenté de monter des madrassas pour former des juristes, des jurisconsultes islamiques, des imams qui auraient plutôt été favorables à la colonisation. D'une manière générale, si vous voulez, la formation des imams est beaucoup moins encadrée dans les pays d'Afrique subsaharienne que dans le monde arabe. Maintenant, il y a quelques imams qui sont formés en Arabie Saoudite, mais très franchement, on en fait grand cas, mais il y a tout un chapitre qui est consacré au rôle de l'Arabie Saoudite. Très franchement, c'est une toute petite minorité dont on exagère indûment l'influence. Il y a beaucoup, d'abord je cite quelques chiffres, et on se rend compte que le nombre d'Africains subsahariens formés en Arabie Saoudite, bon, c'est quelques milliers, mais c'est quand même pas à l'échelle du continent très, ou même des masses musulmanes du continent très important. On oublie souvent aussi que ces formations n'aboutissent pas toujours. Il y a des Africains qui quittent la formation en cours de route parce qu'ils sont déçus par, alors ça peut être un peu tout, la rigueur des enseignements, le racisme des Arabes. Voilà, ils ne s'y font pas et ils reviennent dans leur pays sans avoir achevé leurs études islamiques. Donc, il y a beaucoup de cas de figure et je crois qu'il ne faut pas trop exagérer le rôle qu'aurait l'Arabie Saoudite notamment dans la formation des imams d'Afrique subsaharienne. Sachant qu'il y a aussi d'autres filières qui sont en train de se développer vers le Maroc, par exemple, qui essayent de promouvoir un islam du juste milieu par opposition au wahhabisme saoudien, qui a conclu d'ailleurs des accords de formation des imams du Mali, par exemple. Ça fait aussi partie d'une sorte de diplomatie religieuse, confrérique et soufie pour réintégrer le Maroc dans l'Union africaine, notamment sur la question du Sahara occidental, qui n'est pas résolu, qui est toujours occupé par les forces marocaines. Donc là, se déploient aussi des formations, mais où il y a des soubassements diplomatiques, mais là aussi, que ce soit dans le cadre du Maroc, ou des formations proposées au Soudan, ou bien autrefois en Libye, c'est plus le cas aujourd'hui, on voit que les nombres de personnes concernées par ces formations reste quand même assez dérisoire. Donc très souvent, en réalité, les imams sont relativement autodidactes. Et d'une certaine manière, ils suivent la tradition prophétique d'ailleurs, qui disait que n'importe quel musulman a un peu comme devoir de, voilà, de faire la dawa, de propager la bonne parole et de convertir son prochain. Et donc pourquoi pas de mener aussi la prière. Donc vous voyez, il y a aussi beaucoup d'autodidactes en fait en Afrique subsaharienne. Et là, je dirais que la filière de... notamment du côté des marabouts, hein, ceux qu'on appelle les marabouts. Et donc la filière de formation n'est pas du tout aussi codifiée, rigide et institutionnalisée qu'elle ne l'est dans les pays du monde arabe.
Alors sur la question de l'urbanisation, vous avez évoqué la très forte croissance démographique, ce qui change beaucoup de choses, notamment le fait que ces sociétés essentiellement rurales deviennent urbaines, et donc on imagine bien que ça va modifier les relations sociales, les cultures traditionnelles. Ce qui veut dire aussi, et vous le montrez dans votre ouvrage, que les séparations assez nettes qu'il y avait autrefois entre monde musulman et monde chrétien, y compris à l'intérieur des pays, est en train de ne plus être aussi nette parce que dans les villes, ces populations sont mêlées. Qu'est-ce que l'urbanisation aujourd'hui et ces mégapoles africaines qui sont extrêmement importantes, plusieurs dizaines de millions de personnes, qu'est-ce que c'est en train de changer dans le rapport à l'islam? Et est-ce qu'on a des populations qui se détachent de l'islam, prises par la ville urbaine? On disait en Europe que la ville rend libre, peut-être que ça fait sortir aussi du carcan du village et donc ça peut peut-être détacher des religions traditionnelles. Ou est-ce qu'il y a d'autres manières de vivre l'islam dans les villes, peut-être aussi plus connectées au monde musulman et notamment au monde arabe?
Alors pour ce qui est de la présence chrétienne et du fait que les musulmans sont de plus en plus amenés à côtoyer des chrétiens, notamment en ville, hein, qui sont cosmopolites, qui sont par essence le lieu de brassage des idées, il faut quand même rappeler qu'à la fin du 19e siècle, il n'y a quasiment pas de chrétiens en Afrique. Donc en fait, les musulmans ont une sorte de monopole pour ce qui est du monothéisme et aussi de l'accès à la connaissance, hein, et notamment pour ce qui est des lettrés. Hein. Et donc là, il y a un mouvement très intéressant parce qu'en réalité, l'islam au début est une religion urbaine. D'ailleurs, quelque part, Médina, qui est la ville par excellence en arabe, qui est le lieu d'où le prophète va partir à la conquête de la Mecque, c'est une religion urbaine dès le départ. Et c'est le soufisme, les confréries soufis qui, au XIXe siècle et au XXe, vont diffuser l'islam de manière beaucoup plus populaire dans les campagnes. Et aujourd'hui, ça revient vers la ville, où il y a effectivement montée en puissance de salafistes, qui sont rigoristes, qui veulent revenir à la religion des origines, par opposition au syncrétisme des soufis, c'est comme ça qu'ils le désignent, et qui, eux, sont plutôt effectivement établis en milieu urbain. Ils séduisent notamment les élites modernes, hein, musulmanes, par réaction au traditionnalisme des marabouts, hein, et à parfois à leurs abus aussi, hein, dans l'exploitation des croyants, en leur demandant des offrandes incessamment. Et donc c'est intéressant de voir qu'il y a un peu cette espèce de mouvement de l'urbain vers les campagnes, puis de nouveau vers les villes. Hein. Alors aujourd'hui, effectivement, les chiffres, il y a un organisme qui s'appelle le Pew Research Center. Je vous l'ai dit, les statistiques sont très disputées en Afrique, mais enfin les chiffres sont tels qu'ils disent quand même quelque chose qui montre par exemple qu'au début du XXe siècle, hein, vous avez peut-être un tiers d'Africains qui sont musulmans et 10% qui sont chrétiens. Aujourd'hui, on est à 50% chrétiens et toujours un tiers de musulmans. Même si, encore une fois, je vous l'ai dit, hein, à cause de la fécondité, la plus forte fécondité des femmes au Sahel que sur les villes de la côte ouest-africaine, par exemple, qui sont davantage chrétiennes, fait que ce pourcentage va vraisemblablement évoluer. Mais on voit bien que finalement, rétrospectivement, il faut parler d'une christianisation de l'Afrique. Hein. Et cette christianisation, elle se joue effectivement notamment dans les villes. Et donc là, il y a émergence de nouvelles formes de culture islamique, avec des formes de syncrétisme aussi, de rapprochement, et pas seulement d'opposition entre chrétiens et musulmans. Donc on voit aussi que certains phénomènes, comme la célébration des mariages à l'église, se fait désormais à la mosquée, ce qui n'était pas le cas traditionnellement chez les musulmans. Que des phénomènes comme les grandes veillées nocturnes, qui sont très prisées des mouvements évangélistes, sont repris aussi par des musulmans yoruba à Lagos, au Nigeria. Et que du coup, on peut se retrouver aussi à avoir des offices le vendredi et le dimanche. Et donc voilà, on voit qu'il y a des mélanges qui s'opèrent. Un truc qui s'appelle Islamic Church, qui est l'église de la chrétienté et de l'islam et de l'herbalisme, c'est-à-dire des religions traditionnelles réunies en un. Vous voyez, mais ça, c'est un exemple tout à fait extrême. Mais par exemple, il y a des cas aussi en Éthiopie, vous avez des gens qui portent des prénoms à la fois musulmans et chrétiens et qui se redéfinissent en permanence. Donc, il y a des choses qui sont en train d'émerger dans les villes, des mouvements, de nouveaux mouvements prophétiques qu'on a beaucoup de mal à définir comme étant musulmans ou chrétiens, et qui s'inspirent un peu des deux. Voilà. Mais ça reste très marginal. Mais c'est simplement, en revanche, on voit bien qu'il y a quand même des phénomènes d'acculturation, à la fois de la part des chrétiens et de la part des musulmans. Ça me paraît assez évident. Et évidemment, la ville qui est par excellence le lieu du brassage facilite cette acculturation.
Alors, dernière question pour terminer notre entretien sur le rapport que les élites nationalistes ont avec la religion musulmane ou avec la religion chrétienne. On voit par exemple Boko Haram qui rejette le christianisme comme étant étranger, c'est cela que ça veut dire, enfin Boko Haram, cette culture occidentale qui est haram, interdite. Dans la définition de la culture africaine, comment est-ce que l'islam est perçu, que cette religion vient aussi de l'extérieur? Est-ce que ça ne pose aucun problème? Ou est-ce qu'on a des mouvements plutôt plus nationalistes qui pourraient considérer que c'est une religion étrangère à l'Afrique et donc il faudrait peut-être la rejeter et revenir à des traditions, à des religions locales?
Bon, moi, je vous avoue que je ne sais pas ce qu'est la culture africaine, mais je ne sais pas ce qu'est la culture européenne non plus. Donc, entre un Macédonien, un Allemand et un Britannique, c'est un peu compliqué de mettre tout dans le même sac. Donc, je ne peux pas avoir une réponse générale à votre question. L'islam est souvent présenté comme une religion précoloniale, en fait, et même de résistance aux colonisateurs, ce qui la valorise plutôt, et il y a eu, l'islam a été très largement intégré dans les romans nationaux, dans le monde arabe, au Nigeria, au Soudan, notamment avec le phénomène du mahdisme, comme on l'appelle, et ça fait partie, des romans nationaux. Donc je dirais que l'islam a plutôt, au moment des indépendances notamment, si on devait vraiment généraliser, notamment dans la zone sahélienne, plutôt assis des projets d'État nationaux. À tel point d'ailleurs qu'il y a quelques pays, il y en a peu, mais qui ont essayé de monter des républiques islamiques. Alors il y en a un à qui ça n'a pas réussi, c'est le Soudan, qui s'est divisé en deux avec l'indépendance du Sud en 2011. Et puis sinon, la Mauritanie, qui est une république islamique, mais qui a su composer aussi avec les réalités politiques, puisqu'elle fait partie du groupe du G5 Sahel, les pays du G5, le groupe des cinq, qui avec le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad combattent avec la France et l'opération Barkhane contre des groupes djihadistes. Et la République islamique de Mauritanie fait partie de cet effort militaire. Donc on voit bien que là, il y a des accommodements qui avaient beaucoup moins du côté du Soudan, mais le Soudan a payé le prix puisque finalement la dictature Bachir qui avait mis en place cette république islamique a fini par chuter, renversée par une révolution populaire. Et je dirais que là, de ce point de vue, la tentative de république islamique dans le nord du Soudan est plutôt en train de se perdre dans les méandres de nombreuses disputes pour savoir comment sera la prochaine forme de gouvernement dans ce pays par ailleurs fort agité. Donc voilà, je dirais que l'idée, c'est plutôt qu'il y a eu, dans certains pays, et encore une fois, je ne peux pas généraliser, mais il y a eu convergence entre islam et nationalisme, vous voyez. Mais d'une certaine manière, Kadhafi a aussi essayé d'utiliser l'islam à sa manière. Il a financé énormément de formations, pour se présenter comme un leader à la fois de l'Afrique en général et du monde islamique en particulier, ou encore de manière encore plus générale, je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre.
Et pour les pays de l'Afrique, ce sera ma dernière question, les pays de l'Afrique de l'Ouest, où il y a de plus en plus, d'un côté de chrétiens et de musulmans, notamment sur le fait de l'évolution démographique, le défi sera aussi d'être une nation multiculturelle avec ses religions différentes, parfois antagonistes. Est-ce que ce sont des sujets pour les politiques? Est-ce que ça pourrait être aussi une source de distension, de séparation, comme on l'a vu au Soudan, avec peut-être un Nigeria du Nord et un Nigeria du Sud, et une Côte d'Ivoire aussi qui éventuellement se diviserait en deux, et d'un côté les musulmans, de l'autre les chrétiens?
Oh non, j'y crois pas. L'histoire du Soudan est trop singulière. Hein. C'est un pays qui a été développé comme deux pays, en fait, par le colonisateur britannique. Donc, le fait que le Sud devienne indépendant, là-dessus, puisse ses racines dans des oppositions qui ne sont pas que religieuses, hein, certainement pas. Dans le cas du Nigeria, tout le monde a intérêt à rester partie prenante au même pays, puisqu'il vit de sa rente pétrolière, qui, en fait, est produite dans 4 des 36 États fédérés. Donc, en fait, beaucoup de gens ont intérêt à rester dans un Nigeria uni, dans un marché commun, si vous voulez. Donc, je ne crois pas du tout à une division d'un Nigeria suivant des lignes religieuses, qui d'ailleurs fonctionne pas, hein, mais pareil aussi sur la Côte d'Ivoire. Je crois vraiment pas à un séparatisme religieux. Parce que, d'abord, la vision d'un Nigeria qui serait musulman au nord et chrétien au sud ne fonctionne pas. Hein. Vous avez énormément de chrétiens au sud. Lagos était une ville majoritairement musulmane au XIXe siècle, avant que les Britanniques n'en prennent vraiment possession et ne la redéveloppent comme un port moderne. Et dans le nord du Nigeria, alors vous avez la ceinture centrale qui, elle, s'est très largement christianisée par opposition à la tradition de razzia, de capture d'esclaves des musulmans, des seigneurs musulmans du Nord. Et même aujourd'hui dans le Nord, il y a des zones qui sont majoritairement chrétiennes. Donc c'est très mélangé, en fait. C'est beaucoup plus mélangé. Et on n'a pas cette espèce de vision d'une guerre de civilisation entre un Nord sahélien et musulman, et puis un Sud qui serait chrétien, côtier et plus ouvert à la modernité. Elle tient très mal parce qu'il y a énormément de migration, parce qu'on parle beaucoup de migration en Afrique, mais on oublie que l'essentiel de la migration, notamment en Afrique de l'Ouest, se joue du Sahel, qui est très pauvre, vers les côtes du Sud. Donc en fait, la présence de musulmans sahéliens ne cesse d'augmenter sur les côtes du Sud. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus mélangé et ces formes de séparatisme ne pourraient pas fonctionner parce qu'en fait, il y a peu de gens qui auraient vraiment intérêt sur le plan économique à diviser ces pays. Donc n'y crois pas beaucoup.
D'accord. Oui, il y a une telle imbrication qu'une séparation ne serait pas très compliquée.
C'est pas seulement qu'il y a une imbrication, c'est qu'en réalité, il y a des intérêts communs, des intérêts économiques communs. Hein. C'est-à-dire que, pour reprendre le cas du Nigeria, vous avez le sud-sud, comme on l'appelle, disons le sud-est, l'extrême pointe du sud-est qui produit du pétrole, mais le reste du sud, lui, ne produit pas de pétrole et vit également de cette rente pétrolière. Donc, il a des intérêts convergents avec le nord à dominante musulmane pour que, effectivement, le pays reste uni et que tous les Nigérians puissent profiter de cette manne sans laquelle ils seraient encore dans une crise économique encore plus grave que celle qu'ils connaissent actuellement. Donc vous voyez, les intérêts communs, en fait, entre chrétiens, entre certains chrétiens et certains musulmans, qui transcendent très largement les oppositions religieuses.
Hein. Bien, merci beaucoup d'avoir présenté pour Conflit cette complexité des islams en Afrique, et notamment en Afrique subsaharienne, et d'avoir permis comme ça de préciser des termes qu'on emploie beaucoup, qu'on entend beaucoup dans le langage public ou commun, mais qu'il est toujours bon de repréciser et de remettre en perspective par rapport à l'histoire. Je rappelle votre dernier ouvrage qui est paru chez Vendémiaire, « L'islam d'Afrique au-delà du djihad », avec les références à retrouver sur le site internet de Conflit, et puis également, il y a quelques années déjà, l'Afrique, nouvelle frontière du djihad, point d'interrogation, c'était chez La Découverte, et en 2019, une guerre perdue, la France au Sahel. Merci Marc-Antoine Pérouse de Monclos pour ces précisions et ces analyses sur l'islam d'Afrique. Merci à nos auditeurs pour leur fidélité, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Géopolitique.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.